un lac où le soleil brille, les jolies saintes des filles, un feu de bois qui pétille, c'est rien, pas la mer à boire, les yeux, le rire des mômes, les lilas qui embaument d'un bon café d'arôme, c'est bien, c'est pas le bout du monde. Oh, pas grand chose pour être heureux. Du miel avec les tartines, une laine sur sa poitrine, du boulot à l'usine, des fois c'est la mer à boire, la neige là où elle est blanche, la sieste sous les branches, le ciné du dimanche, des fois c'est le bout du monde, ou pas grand chose pour être. Oh, pas grand chose pour être. Oh, pas grand chose pour être.
Avant dernière intervention, les méchants. Paul Vendrome sépare l'aéro, les hommes de gag, qui n'aiment pas tellement la...
C'est un livre un peu surfait, hein, quand même. Il bénéficie beaucoup du fait d'être épuisé.
Il date surtout de 1959, ce fut le premier, il a droit à des erreurs, des circonstances atténuantes. Et alors, il y a les hommes de gang, là, je crois que tu as accepté le terme. De toute façon, on n'a plus le temps de discuter de ce genre de choses. Moi, j'ai sélectionné différents types de bandits. Je vais vous demander de... indépendamment de ma classification, de commenter ce type de bandit. D'abord, il y a la crapule parfaite, avec la sale gueule, comme Mitsuhirato, Jürgen, le docteur Müller, les deux bandits de l'oreille cassée, dont j'ai oublié
Alan
le nom,
et
quelques autres, oui.
Les frères Loiseau.
Quelles sont les caractéristiques de ces bandits?
Mais... ils sont mauvais.
Oui. Je pense que tu as dit tout ce qu'il fallait en dire.
C'était donc une critique d'un spécialiste de la bande dessinée.
Disons que ce ne sont pas vraiment les personnages les plus intéressants qu'il y a chez Hergé. Parce que je me demande si Hergé, au fond, est capable de vraiment animer un méchant qui soit méchant totalement et jusqu'au bout.
Ouais, il l'a fait avec eux, en tout cas.
Cette remarque est tout à fait juste. Parce que je crois qu'Hergé n'a pas une grande veine pour les méchants. C'est quelqu'un qui a une espèce de sympathie pour ses personnages et qui fonctionne à plein rendement pour des personnages positifs ou pour des personnages stupides, qui excitent sa verve, mais... pour les méchants, finalement, ils ne se déchaînent pas tellement. Et je dirais, c'était peut-être une hérésie, mais je dirais que les personnages négatifs d'Hergé ne me paraissent pas être ses plus grandes réussites, loin de là.
Peut-être qu'Hergé n'a pas en lui-même la dose de méchanceté suffisante pour pouvoir l'exorciser dans ce type de personnage, comme d'autres créateurs ont pu le...
Alors, Jacobs a plus d'inventions. Un personnage comme Ulrich, par exemple, est un mauvais qui a bénéficié, on dirait, de la sympathie et de l'investissement de son créateur. Alors que Rastapopoulos, bon, c'est relativement subtil. Bon, il y a des choses, il y a des variations, il y a l'introduction de la bêtise dans la méchanceté ou de la méchanceté dans la bêtise, des choses comme ça. Mais il me semble que ça reste assez faible, même par rapport à un personnage comme Lampion, par exemple.
Mais par exemple, Ulrich est un personnage séduisant, élégant, qui a une certaine élégance de manière, disons, alors que Rastapopoulos, au contraire, fait preuve d'un mauvais goût absolument parfait à chacune de ses apparitions. Hein, c'est vraiment là que se situe peut-être la différence.
Absolument. Et la base du méchant, c'est effectivement l'idée qu'il puisse être un personnage séduisant, au moins un moment, qu'on puisse se tromper sur lui. À ce point de vue-là, bon, Ulrich serait un bon exemple, où tous les personnages de méchants dans les films d'Hitchcock sont très passionnants, parce que souvent, ce sont les personnages les plus intéressants, les plus pleins. Et Hitchcock cherchait souvent l'acteur le plus intéressant, le plus élégant, pour tenir le rôle du méchant. Et ça me semble le fondement des grands créateurs de personnages négatifs, c'est vraiment de leur donner un pouvoir d'attraction ou de séduction énorme. Si si on les rend et méchants et ridicules, disons qu'on se donne un peu la part belle pour les défaire.
C'est ça. Il y a cette fameuse scène de vol 714 pour Sydney entre Karedas et Rastapopoulos, où ils revendiquent chacun la plus grande part de méchanceté par rapport à l'autre. Et alors qu'au départ de la série, Rastapopoulos est évidemment présenté comme un méchant, et Karedas bénéficie plutôt d'un préjugé favorable. Il se trouve dans le camp des bons, des héros. Et là, au fond, Hergé montre plus ou moins qu'ils sont interchangeables, ce qui prouve bien que dans son esprit, il n'y a pas de méchant qui puisse être intégralement méchant. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et certainement que quelque part, Rastapopoulos doit être récupérable aussi.
Mm-hmm. Oui, finalement, on pourrait dire qu'à ce point de vue-là, Hergé a fait sien le mot de Mao Tse-tung qui disait « le bon est idiot mais éducable ». Et finalement, il y a toujours un peu cette idée-là, la possibilité d'une rédemption de tous les méchants qui simplement n'ont pas rencontré Tintin au bon moment, n'ont pas eu la chance, comme Haddock, ce pauvre marin alcoolique, de s'entendre dire un jour « que dirait votre pauvre mère si elle vous voyait dans
ce... » Il me semble que le personnage le plus antipathique qu'Hergé ait créé, c'est peut-être Alan, le lieutenant de Haddock.
C'est une brute.
Qui est une brute et qui est particulièrement antipathique, peut-être justement parce qu'il s'en prend à Haddock, vers lequel vont toutes les sympathies du lecteur. Tandis qu'au fond, Rastapopoulos...
Il est aussi ridiculisé dans Vol 714, lui. Hein.
Oui. Vol 714 prolonge une entreprise de mystification des codes mis en place dans les albums précédents, qui a été inaugurée, évidemment, avec les bijoux. Et là, effectivement, Alan est ridiculisé. Mais moins néanmoins que Rastapopoulos.
Wolf ou Wolf, au choix, faut le situer où ? Dans les bons, dans les méchants, dans les ambigus ?
Plutôt dans les bons, je dirais. Le bon qui à un certain moment, s'est laissé aller à une faiblesse.
C'est
un parce qu'il avait de mauvaises fréquentations.
C'est un personnage presque très chrétien, d'optique. C'est un personnage de Graham Greene, en fait. C'est le pêcheur.
On a tantôt abordé le côté belge des personnages d'Hergé avec Séraphin Lampion. On va entendre l'opinion d'Hergé sur le sujet. On va aussi entendre Hergé, au micro de Stéphane Steman, je précise, parler de la réalité de ces personnages. Et ensuite, un extrait d'une interview de Luc Beyer qui amorcera une explication du succès belge de Tintin.
Il y a ce merveilleux mot d'un enfant que vous m'avez
rappelé. Ah oui, à propos de, qui est adorable. À propos du film Le Temple du Soleil, on lui demandait ce qu'il pensait des acteurs, et il dit « j'aime pas beaucoup le capitaine Haddock ». Et pourquoi tu n'aimes pas le capitaine Haddock ? Eh bien, il n'a pas la même voix que dans les livres. C'est merveilleux, parce qu'enfin, il entendait avec ses yeux, somme toute, puisque le capitaine Haddock n'a pas de voix, il n'a pas... Et il dit, c'est pas la même voix que dans les livres. J'ai trouvé ça merveilleux, cette chose-là.
Oui, c'est étonnant.
Hein, c'est très poétique, hein.
Chancel a un jour essayé, ça je l'ai entendu, oui. C'est Tibet qui l'a entendu d'ailleurs, qui l'a répété, l'avocat collaborateur très cher, qui m'a encore répété tout à l'heure que Jacques Chancel essayait de vous faire dire que Tintin était tout de même un personnage très français. Vous êtes défendu comme un beau diable en disant qu'il était belge.
Non, c'est pas très bien.
Est-ce qu'il a une nationalité dans le fond?
Non, justement. Mais enfin, il se fait qu'il est né à Bruxelles. Il se fait aussi que par hasard je suis belge. Je ne vois pas pourquoi je dirais qu'il est français. C'est pas par chauvinisme, simplement par souci de la vérité, par souci du détail, si vous voulez.
Attribuer cela au fait qu'Hergé et Tintin appartiennent à la mémoire collective belge en particulier. Je ne suis pas tout à fait sûr, il ne serait pas tout à fait évident que malgré l'universalité du personnage de Tintin et du monde de Tintin, pour reprendre le titre de Paul Van Drome, il n'est pas tout à fait évident qu'une telle ferveur se manifesterait partout ailleurs. Mais nous sommes belges. Et l'enfant belge a été extraordinairement conditionné par ce personnage de Tintin, un peu, je dirais, comme l'enfant français a été conditionné par la semaine de Suzette et par le personnage de Pécassine.
Thierry Gunstrin et Benoît Peters, vous venez d'entendre donc Hergé et puis Luc Beyer. D'après vous, le monde de Tintin, c'est un monde belge?
Bon, je crois que l'aspect belge de la série est important, plus important qu'on ne le dit souvent, et Luc Beyer a raison d'insister sur ce point. Mais je crois que cet aspect belge n'exclut pas du tout, entre guillemets, l'universalité de la série, mais plutôt qu'il la programme, en quelque sorte. Il la prépare, parce que tout se passe comme si, d'un pays relativement petit, relativement vide, on pourrait presque dire, d'un certain point de vue, eh bien, Hergé se servait pour faire partir un personnage qui, n'étant pas tellement attaché par son lieu de départ, va pouvoir aller vers tous les autres lieux, et ne partant pas d'a priori trop fort, puisque d'une certaine façon la Belgique est donnée ici fantasmatiquement comme une espèce de lieu un peu neutre, un lieu pas trop plein, enfin c'est ça, eh bien Tintin va pouvoir arriver dans les différents lieux sans trop d'idées préconçues. D'une certaine façon. Alors que si on imagine, imaginons ne serait-ce qu'un instant un Tintin américain, un Tintin soviétique, un Tintin britannique, comme tu le dis, effectivement ce personnage va arriver avec un bagage culturel tellement fort qu'il va forcément imposer sa vision. Alors que la Belgique, ce pays qui n'est finalement, j'espère que je ne choque personne, qu'un conglomérat d'influences diverses, eh bien, prédisposait complètement le personnage à partir un peu partout et à recueillir encore plus ses influences. Donc on pourrait dire, Tintin, c'est l'idée belge poussée à son apogée, et certainement que si la Belgique avait suivi la voie tintinesque, elle n'en serait pas où elle en est.
Oui, je suis d'accord avec ce que Benoît vient de dire, et je pense que le côté belge de la série est peut-être plus perceptible pour lui qui est français que pour les Belges que nous sommes, dans la mesure où, évidemment, nous baignons un petit peu dans l'univers qu'Hergé dépeint. Donc il est plus difficile d'en apercevoir les caractéristiques propres.
D'autant que ce sont des caractéristiques relativement inapparentes, malgré tout, parce que tout fonctionne sur une sorte de gommage. Hein. Il n'y a jamais.
Oui, on ne verra jamais un petit bout d'atomium pointé dans un décor, une scène de rue, comme par exemple Greg l'a fait dans Achille Talon. On voit toujours la Tour Eiffel qui dépasse des toits, parce comme que si Greg, bien qu'étant belge, veut absolument faire passer son personnage pour français. Il entretient cette espèce de complexe qu'ont certains Belges et qu'Hergé n'a, à mon avis, pas du tout.
Oui, et Greg voulait sans doute faire croire que de toutes les fenêtres françaises, on aperçoit au moins un morceau de la Tour Eiffel.
Alors, finalement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, puisque Hergé est surtout le héros principal de cette série d'émissions, toi, Benoît, qui l'as rencontré, comment t'a paru le personnage Hergé?
Oh, il est difficile de parler du personnage Hergé. Je crois que c'est quelqu'un, le peu que j'ai rencontré m'a permis de me rendre compte que c'était quelqu'un d'extrêmement attachant, quelqu'un aussi de très, très différent, probablement, de sa création, enfin, On n'a pas l'idée d'un prolongement immédiat de l'un ou l'autre des personnages quand on rencontre Hergé. Je crois que là, Thierry Gonsen l'a laissé entendre tout à l'heure à propos d'Adoc et qu'il faut le dire à propos des autres personnages. Hergé ne se confond certainement avec aucun de ces personnages. C'est quelqu'un qui a donné à chacun des personnages un morceau lui-même, mais qui en même temps a donné dans sa création autre chose que ce qui peut apparaître de lui. Et il y a à ce propos quelque chose qu'il est amusant de noter, c'est que Tintin, qui est probablement le plus voyageur de tous les personnages de la bande dessinée, bon, est le fils de quelqu'un, bon, est le fils d'Hergé, qui n'a jamais été un grand voyageur. Finalement, Hergé ne s'est mis à voyager qu'extrêmement tard, et je crois qu'il n'a pas un goût si grand pour les voyages, et ça montre probablement la plus grande caractéristique, la plus grande qualité d'Hergé, c'est que c'est un être qui vit, à mon avis, avant tout par l'imaginaire. C'est un imaginatif fondamental, enfin. Et s'il faut penser les personnages d'Hergé dont on vient de parler comme des morceaux d'auteur, ce sont avant tout des morceaux en tant que projection fantasmatique, en tant que développement hyperbolique d'un aspect de son caractère, mais pas du tout comme des morceaux d'autobiographie réelle. Enfin, Hergé, c'est certainement le créateur, d'une certaine façon, le moins autobiographe qui se puisse concevoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas mis de lui-même, mais qu'il n'a certainement pas mis de son vécu, parce que son vécu, c'est simplement Tintin.
Oui, moi je n'ai jamais rencontré Hergé, mais je me rends compte à l'instant que je n'ai jamais eu le désir de rencontrer Hergé. Peut-être parce que son monde est suffisamment cohérent et se suffit à lui-même pour se passer à la limite même du créateur. On a tendance à oublier qu'il y a quelqu'un derrière tout ça qui a imaginé Hergé. C'est un monde qui est tellement riche que... il n'y a pas vraiment une individualité qui perce comme dans d'autres bandes qui ont peut-être moins de qualité ou qui jouent sur moins de tableaux différents. Et j'ai jamais eu vraiment envie de rencontrer Hergé, et cette envie ne me tenaille toujours pas, malgré le fait que je sois un grand admirateur de son travail.
Et finalement, c'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse faire à une œuvre, que de dire qu'elle finit par devenir tellement forte que l'auteur devient quelque chose dont on pourrait presque se passer, quelque chose qu'on admire énormément pour ce qu'il a fait, enfin quelqu'un, encore plus que quelque chose, mais en même temps qui n'est pas la garantie indispensable à l'intérêt qu'on peut porter à l'œuvre, disons.
Dans l'extrait qui suit et qui va conclure cette émission, Gérard Vallée, réalisateur du film Moi Tintin, va expliquer comment il considère Hergé et va parler de sa rencontre avec lui. Stéphane Stemann, qui est un de ses plus grands admirateurs, va parler de son idole Hergé, et puis Hergé parlera d'un journaliste, mais là je vous laisse la surprise.
Eh bien, comme un homme intelligent, de bonne compagnie. Je pourrais être plus dithyrambique, mais c'est uniquement parce que les mots sont galvaudés. Or, rencontrer un homme intelligent n'arrive pas tous les jours, et rencontrer un homme de bonne compagnie dans le sens du XVIIe ou du XVIIIe siècle, ce n'est pas non plus évident. Je pense qu'il est plus que ça, parce qu'il a acquis une sagesse en n'étant pas du tout préparé au départ à devenir le héros qu'il est devenu. Et je pense que si jamais par hasard il entendait ça, il ne m'en voudra pas, mais je crois lui-même qu'il le dit, c'est un petit Belge qui est arrivé à une situation dont il ne s'est peut-être même pas rendu compte. Mais en tout cas, grâce à son personnage, à son œuvre, à ses bouquins, ça lui a permis certainement d'avoir une vie relativement hors série par rapport à des gens qui sont dans une usine, c'est bien évident. Alors, il a eu la sagesse d'apprendre, et ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'il apprend ce qui est très moderne. Je veux dire qu'il est passionné par les peintres modernes, par la sculpture moderne, qu'il est peut-être, plus âgé que moi, et plus en avance, et plus jeune que je ne le suis sur certains points. Moi, je suis toujours un passionné pour la Grèce antique, lui peut-être pour les dernières œuvres musicales ou picturales de la Grèce moderne. Donc, j'admire chez Hergé cette faculté d'adaptation à citer Bretéché, par exemple, lorsqu'il parle du dessin d'aujourd'hui. Il y a un tel décalage entre, quand même, Tintin et Bretéché. Mais ce qui m'a aussi semblé extrêmement... plus que sympathique, c'est qu'il nous a laissé absolument faire notre film comme nous le voulions. Nous lui avons dit, notamment à propos du passage de la guerre, ça semble quand même un peu idiot si on ne peut pas poser de questions là-dessus. Il a dit, mais faites tout ce que vous voulez. Et on l'a fait marcher, on l'a fait jouer, et on l'a fait bien jouer, et enfin, je veux dire qu'il a bien joué. Et là, ça a été aussi une de nos surprises qu'ils nous disent, moi je fais de la bande dessinée, vous faites du cinéma, si vous pensez qu'il faut faire ça, je le ferai. Et nous avions quelques scrupules, d'abord parce que c'est toujours difficile de déranger un personnage, et en plus un personnage qui a un rythme de vie qui lui permet d'ailleurs d'arriver à paraître, je dirais, plus jeune qu'il n'est, et toujours dans le coup, donc... Il a réellement suivi toutes les instructions du metteur en scène, si l'on peut dire, en n'étant jamais juge de ce qu'on lui faisait faire, ni du film d'ailleurs après, parce qu'après il y a certainement des amis qui lui ont dit « tu n'aurais jamais dû te livrer à tel genre de confession ». Eh bien, il a défendu le film, parce qu'il sentait qu'il y avait une sorte de nécessité. Et je pense que s'il y a, je ne dis pas une admiration, mais disons, s'il y a une amitié de la part d'Hergé pour ceux qui ont fait ce film, elle vient du côté sérieux et professionnel qu'on a attaché au film, en plus d'éventuelles sympathies qu'il a pu avoir pour l'un ou l'autre réalisateur, puisque c'est un film que j'ai fait avec Henri Roanne.
Je l'ai toujours beaucoup aimé parce qu'il respire la tendresse. Et il est secret, c'est un être assez secret. Je crois qu'on peut-être on pourra me dire oui, mais on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas très bien, c'est certain. Mais enfin, bon, attention, remettons les choses à leur place. Je connais très bien Hergé. Je l'ai vu plusieurs fois, il m'a téléphoné pour me remercier, je l'ai vu en studio, je l'ai vu chez lui à Avenue Delors à l'époque à Boisfort, je suis allé à l'époque où je faisais Dimanche Musique, l'interviewé tout un après-midi chez lui, donc Avenue Louise. Je l'ai revu à différentes reprises, c'est-à-dire à certaines expositions, certains anniversaires, et j'ai fait un petit numéro pour lui lorsqu'il y a eu la grande fête à l'hôtel machin là, je sais plus lequel. Je suis allé à la première de Gérard Vallée du film où je l'ai vu aussi. Donc la dernière émission de télévision, j'y étais également, donc je l'ai rencontré souvent. Mais je ne suis pas, hélas, un grand ami de Hergé, un personnel, non. J'aurais aimé, mais les contacts que j'ai chaque fois eu avec lui respirent la tendresse, la gentillesse, et la pureté et l'amour de son métier. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Il est sincèrement, il ne joue jamais, il est sincèrement ému chaque fois qu'on puisse l'aimer lui ou aimer tellement ce qu'il fait. Et un exemple, c'est que la bande sur laquelle, la bande que j'avais gardée de cet enregistrement de la RTB, j'avais fait une petite chose qui m'avait paru normale et ça l'avait profondément ému et il l'a retenu et il m'en parle encore maintenant, c'est inouï. J'avais simplement, quelqu'un m'avait demandé un autographe, là c'était au passage 44 à l'époque, il m'avait demandé un autographe et j'ai horreur de demander qu'on me demande un autographe lorsque je suis pour quelqu'un d'autre. Vous savez, je trouve qu'il n'y a pas de raison à ce moment-là. Et je crois qu'on m'avait remis un livre d'Hergé à signer. J'ai horreur de signer les livres des autres, en plus. Il n'y a pas de raison. Et la personne insistait. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez pas. Oui, mais si. Et j'avais mis « Vive Hergé ». C'est fin de semaine. Comme ça, je restais dans le contexte. Et il a vu cela après, il a signé sans doute le livre, il a vu ça après. Et il a retenu cela, il m'en a parlé, il l'a mis dans une dédicace à Stéphane Sémin qui a eu la gentillesse de mettre Vie Verger. Vous voyez, une chose comme ça l'a ému, pour moi c'était normal. Eh bien, ça prouve tout le personnage. C'est ça, j'aurais aimé qu'il soit, je ne sais pas, de la famille.
Vous racontez, vous qui êtes un homme de radio et de télévision, Je voulais vous raconter une petite anecdote qui concerne un de vos confrères, disons. J'en dirai pas trop de mal, mais enfin, attendez-vous au pire.
Oui.
Ce garçon s'est amené mardi dernier au cocktail qui était offert pour justement le 25e anniversaire de la fondation du journal Tintin et l'exposition de la bande dessinée qui se tient au passage 44. Et en le voyant, c'est un personnage très connu, ne vous offusquez pas, il est très connu et diverses personnes se sont ruées vers lui pour lui demander des autographes. Alors il a sorti sa plume de Tolède et a dédicacé. Et vous savez comment est-ce qu'il a fait ? Vous savez ce qu'il a fait ?
Non.
Non. Eh bien, il a écrit sur chacune de ses petites... Comme dédicace, il a écrit, c'était à l'occasion donc de... Il était là à l'occasion du 25e anniversaire de la bande dessinée, Tintin, etc. Il a écrit « Vie Vergé ». Vous savez comment il a signé ?
Non.
Non, c'était Man. C'est très gentil, je vous en remercie. C'est très délicat, ça. Je tiens à vous le dire.
Merci, Hergé.
Eh bien, merci à Benoît, merci à Thierry. Je vous rappelle que Benoît Peters, c'est l'auteur du livre Cassette Hergé et qu'il sortira d'ici quelques mois un livre chez Magic Strip sur les bijoux de la Castafiore, tandis que Thierry Grunstein sortira, lui, un livre toujours chez Magic Strip sur l'humour chez Hergé. La semaine prochaine, nous retrouverons Benoît Peters, accompagné de François Rivière, pour parler de la narration chez Hergé. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine.